Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On le surnomme le bienfaiteur de l'humanité, Louis Pasteur, le vainqueur de la rage. Il a donné son nom à un principe de conservation des aliments, la pasteurisation, découverte en 1865, procédé qui se traduit dans toutes les langues ou presque.
En portugués brasileiro, pasteurisation.
Paruski, pasteurizatsia.
En espagnol, pasteurisation.
Na bosanskom kažemo pasteurizatsia.
In English, pasteurization.
Auf Deutsch, Pasteurisierung.
Un petit tour des rédactions de langue de RFI. Louis Pasteur, visage bienveillant, regard concentré, barbe taillée courte qui a figuré sur un billet de banque français. C'était en 1966. Une station de métro porte son nom à Paris. Et aujourd'hui, surtout, une fondation, l'Institut Pasteur, perpétue son travail. Prévenir et traiter les maladies, développer la recherche, l'enseignement, les actions de santé publique. Pasteur illustré aujourd'hui à travers trois chiffres. 133 unités de recherche à Paris, 10 prix Nobel et un réseau de 33 instituts au total dans le monde. L'Institut Pasteur, 130 ans de sa création, une aventure humaine et scientifique au cœur de l'exposition qui ouvre ses portes le jeudi 14 décembre à Paris. Exposition intitulée « Pasteur l'expérimentateur » au Palais de la Découverte. Une exposition et son catalogue intitulé « Louis Pasteur le visionnaire » que vous avez co-dirigé avec Annick Perrault et qui est publié aux éditions de La Martinière. Maxime Schwartz, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur, cette fondation dédiée à la recherche partout dans le monde, 26 pays, 5 continents. Pendant cette émission, nous vous proposerons de nous arrêter dans 3 d'entre eux, le continent africain, le Sénégal, avec d'abord le docteur Amadou Sall, directeur de cet Institut Pasteur de Dakar, l'Asie, le Laos, où nous rejoindrons le docteur Paul Bray, directeur de l'Institut Pasteur de Vientiane, et puis l'Amérique du Sud, la Guyane, où nous serons en ligne avec le docteur Mirdad Kassanji, directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne. Maxime Schwartz, Louis Pasteur, on va parler de l'homme, de son œuvre, de son héritage. Pasteur expérimentateur, c'est le titre de cette exposition à Paris. Pasteur visionnaire, là c'est le titre du catalogue. Ses ouvrages aussi que vous lui avez consacrés, Louis Pasteur et ses lieutenants Roux, Yersin et les autres, Pasteur et Coq, duel de géants dans le monde des microbes. Et puis l'an dernier, le génie de Pasteur au secours des poilus. Pour vous, qui est Louis Pasteur ?
Bien, Louis Pasteur a été qualifié de bienfaiteur de l'humanité, ça n'est pas pour rien, il a fait des progrès considérables dans beaucoup de domaines, que ce soit de la chimie ou de la biologie, et on peut dire qu'aujourd'hui encore, on en mesure les conséquences, que ce soit dans la science pure ou dans les applications. Vous avez mentionné la pasteurisation, tout le monde sait qu'on pasteurise de nombreux aliments. Il y a évidemment la médecine avec le développement de l'hygiène, il y a la médecine préventive avec les vaccins, etc. Donc c'est pour cela qu'on a appelé le livre Pasteur le visionnaire, parce que il avait conscience que les travaux qu'il faisait auraient des conséquences à très long terme.
Une postérité exceptionnelle, hein, et même une notoriété de son vivant qui lui a permis de réunir des fonds pour créer sa propre fondation. C'était quelque chose, un investissement très personnel et en même temps le moyen de continuer ce travail d'exception là encore.
Pasteur a dû lutter pendant toute sa carrière pour obtenir les fonds nécessaires à sa recherche. À l'époque, on n'avait pas des organismes comme aujourd'hui, le CNRS, l'INSERM, etc. Donc, il n'y avait pas de financement de la recherche. Et pour avoir un laboratoire, bien, si on était dans l'enseignement, on pouvait éventuellement disposer un peu d'un laboratoire d'enseignement, mais il n'y avait pas de laboratoire. Donc, il a dû lutter pendant des années, ne serait-ce que pour avoir des locaux très modeste, mais quand même correct, d'abord à l'École normale supérieure, où il a effectué l'essentiel de ses travaux. Et puis, au fur et à mesure que sa notoriété s'accroissait, il a pu obtenir des fonds essentiellement publics, des pouvoirs publics. Et ce n'est vraiment que vers la fin de sa carrière, quand il a fait son travail sur le vaccin contre la rage, que l'Académie des sciences a décidé de lancer une souscription internationale qui a permis de réunir des fonds. Alors initialement, c'était pour faire simplement un institut pour ce qu'on appelait la prophylaxie de la rage, c'est-à-dire pour pouvoir traiter avec le vaccin les gens qui étaient mordus. Mais les fonds réunis dans le monde entier ont permis d'avoir des ambitions bien supérieures et qui ont permis que l'Institut Pasteur s'intéresse à l'ensemble des maladies infectieuses, à l'enseignement en particulier.
Alors 1887, hein, c'est la date de la création de l'Institut Pasteur. Première vaccination, c'était 2 ans plus tôt, 1887-2017, 130 années, héritage multiple. Vous-même de formation, vous étiez biologiste moléculaire, Maxime Schwartz. Est-ce que la figure de Pasteur a compté dans vos choix personnels, justement, quand vous vous êtes engagé dans cette branche spéciale de la science ?
Pour être franc, non. Parce que, bon, j'étais biologiste moléculaire, mais avant j'étais élève de l'école polytechnique, et il est inhabituel d'avoir un polytechnicien qui s'intéresse à la biologie. C'était très inhabituel à l'époque, maintenant c'est devenu relativement courant. Donc je connaissais relativement peu Pasteur, comme tout le monde, quand je suis venu travailler. C'était plus qu'à l'époque, Jacques Monod, François Jacob avait commencé à créer ce qu'on appelle l'école de biologie moléculaire, et à la sortie de l'école polytechnique, j'étais intéressé par la biologie. On m'a conseillé d'aller voir Jacques Monod, lequel était très intéressé par l'idée d'attirer vers la biologie des gens venant des sciences exactes. Et donc, il m'a pris sous son aile, m'a fait faire des certificats de biologie, et c'est comme ça que je suis devenu biologiste moléculaire, et peu à peu, j'ai appris à connaître la figure de Pasteur.
Maxime Schwartz, vous restez avec nous. On va parler bien sûr des grandes découvertes, des disciplines dans lesquelles Louis Pasteur s'est illustré, diversité de son œuvre, donc la biologie moléculaire, les microbes, les cultures bactériennes, bien sûr, les maladies infectieuses, l'immunité, les vaccins. L'Institut Pasteur évoquait en 1962, c'était une émission radiodiffusion télévision française, hein, on est en 62, l'émission s'appelle « Les bonnes adresses du passé » et on va s'arrêter 25 rue du Docteur Roux à Paris.
Ce que nous recherchons n'est point science mais souvenirs. Cette photographie le prouve. Elle représente la statue de Jupil, le berger qui, mordu par un chien enragé, fut sauvé par M. Pasteur. L'homme qui se trouve au pied de la statue est ce même Jupil, devenu plus tard gardien de l'Institut. Oui, tout ici est souvenir. Souvenir qui glorifie la mémoire de Louis Pasteur, dont les restes reposent avec ceux de Mme Pasteur dans cette chapelle funéraire creusée dans le sol même de l'Institut qu'il fonda. Et si après sa mort, le tombeau de l'homme de science est resté au milieu des hommes de science qui perpétuent son œuvre, de son vivant, sa maison était également là.
1962, 25 rue du Docteur Roux, l'Institut Pasteur. Et ce sont donc des dizaines d'adresses à travers le monde. La vôtre, celle où vous travaillez à Dakar, se trouve sur l'avenue Pasteur, justement. Docteur Amadou Sall, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez cet institut dans la capitale sénégalaise. Docteur Sall, comment devient-on directeur d'un institut Pasteur ?
On devient directeur d'un institut Pasteur en y travaillant et en s'intéressant à Pasteur, son œuvre et toute la discipline qu'il a eu à créer. Et je trouve que pour mon cas personnel, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais étudiant en France, de travailler à l'Institut Pasteur en étant au tout début de mes études. Et c'est comme ça que j'ai eu le lien avec cet institut. Et plus tard, j'ai pu continuer mes travaux dans mon pays d'origine. Et en faisant mes travaux ici, j'ai naturellement évolué dans ma carrière pour aujourd'hui diriger l'Institut Pasteur.
Docteur Amadou Sall, cette mission de santé publique, hein, l'enseignement, la recherche, et puis aussi à Dakar, la production. Production de vaccins ?
Oui, la production de vaccins. Et par rapport à ce que vous disiez avec le professeur Schwartz, c'est vraiment dans la tradition pasteurienne, une fois qu'on connaît un virus, de faire un vaccin. Et l'histoire de la fièvre jaune au Sénégal est très intéressante, puisque La fièvre jaune est le premier virus humain au monde à avoir été isolé. Il a été ici, à l'Institut Pasteur. Et dans, à l'époque, c'était aussi important que les grandes maladies aujourd'hui, comme le sida, etc. C'était vraiment une très importante maladie. Et dans la foulée, dans la tradition pasteurienne, il y a eu un travail pour faire un vaccin qui s'est concrétisé 10 années après. Et donc, cette production qui date de cette période, depuis 80 ans, est aujourd'hui la seule unité industrielle de production en Afrique et au Sénégal de ce niveau-là. Et donc, c'est très important que cela ait commencé beaucoup plus tôt dans la tradition pasteurienne.
Fabrication de ce vaccin de la fièvre jaune. Est-ce que votre institut sert aussi de centre de vaccination, docteur Amadou Sall?
Oui, nous avons un centre de vaccination. Bien évidemment, dans la pure tradition pasteurienne, on a commencé avec la rage, mais maintenant on fait la fièvre jaune et toute une série de maladies qu'on appelle la vaccination internationale.
Et une mission d'enseignement. Alors, qui sont les étudiants que vous formez et à quelle spécialité?
Alors, nous avons des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, beaucoup du Sénégal, bien évidemment, mais au jour d'aujourd'hui, on accueille 18 nationalités au niveau de l'Institut Pasteur, et c'est aussi bien des étudiants africains que des étudiants qui viennent des États-Unis, de France ou de différentes régions d'Europe. Les spécialités qu'on leur enseigne, c'est la microbiologie, parce que c'est la spécialité de la maison. Mais ce qui est très important, toujours dans la tradition pasteurienne, c'est de vraiment d'avoir un lien avec le terrain, c'est-à-dire d'aller faire des études là où les maladies arrivent, dans zone rurale, essayer de les comprendre. Donc au-delà de l'épidémie de la microbiologie, on va leur apprendre l'épidémiologie, mais aussi on va leur apprendre toute une série de nouvelles disciplines qui arrivent dans la biologie, comme la génomique et comme l'utilisation des mathématiques dans la compréhension des phénomènes biologiques.
Est-ce que les étudiants, les jeunes qui viennent travailler chez vous, ont conscience justement de la figure, de la personnalité de Louis Pasteur?
C'est assez varié. Il y en a qui viennent justement parce qu'ils connaissent tellement Pasteur et qu'ils ont envie de travailler dans un institut Pasteur. Mais il y en a qui viennent et qui, en le découvrant, deviennent des passionnés. Et donc, c'est un peu l'attractivité de cette institution est liée au nom Pasteur, qui est bien évidemment associé à de la qualité, associé à de l'excellence, et à des grandes capacités à changer le monde. Et cet impact sociétal est quelque chose qui attire énormément les gens. Dans le cadre de la santé publique, par exemple, l'institut Pasteur a beaucoup été mis sous les médias à travers un travail énorme qu'ils ont fait en Guinée sur Ebola, et notamment lors des épidémies, les gens sont assez fascinés de voir l'Institut Pasteur agir.
Docteur Amadou Sall, s'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui?
Le message le plus important, je pense que c'est ce que disait Pasteur en disant que la science n'a pas de patrie, parce que c'est la lumière qui illumine l'humanité, et je pense que c'est un message d'universalisme qui traduit un grand humanisme qui est servi par beaucoup de sciences. Et je pense que dans un monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de soucis, le message de Pasteurien, au-delà d'être scientifique, est un message humaniste et je pense que c'est important de le partager.
Merci beaucoup docteur Amadou Sall. Je rappelle que vous dirigez l'Institut Pasteur de Dakar. On vous retrouve Maxime Schwartz pour parler justement de cet héritage de Louis Pasteur, cette exposition qui lui est dédiée à Paris à partir de la semaine prochaine, le palais de la découverte qui est fréquenté par beaucoup d'élèves, hein, beaucoup d'étudiants. Quel écho peut justement trouver Louis Pasteur auprès de la jeune génération?
Je pense qu'une exposition comme ceci est extrêmement importante parce qu'on a moins tendance qu'auparavant à parler des grands hommes dans l'éducation nationale. Et je pense que là, c'est une occasion pour les élèves, essentiellement en français, d'apprendre à connaître Louis Pasteur, qui a quand même joué un rôle considérable. Donc, et comme cette exposition va avoir beaucoup d'aspects ludiques, ça devrait, je pense, beaucoup attirer les enfants et leur permettre de connaître l'essentiel des travaux de Pasteur.
Avec de l'interactivité, il y a un aspect romanesque à ce parcours de Louis Pasteur. Au moment de l'âge d'or de la vaccination, l'ascension d'un élève brillant, le chimiste, l'homme, il est le père de 5 enfants. La maladie le prive de 3 de ses filles, professeur, directeur, chercheur, et même, on a envie de dire, enquêteur, puisqu'on le charge de résoudre des problèmes très concrets. Par exemple, Maxime Schwartz, 1863, le Jura, c'est 20 d'Arbois qui tournent au vinaigre, avec là une découverte essentielle.
Oui, ce va-et-vient entre la science fondamentale et la science la plus appliquée est vraiment une caractéristique fondamentale de Pasteur lui-même et de la science pasteurienne. Dès le début, s'il a commencé à s'intéresser à la microbiologie, c'est parce que lorsqu'il était à Lille, le fils d'un industriel lillois qui fabriquait de l'alcool à partir du sucre de betterave avait de gros problèmes dans la fermentation. Et c'est à partir de ce moment-là que Pasteur a commencé à s'intéresser aux fermentations. Et en fait, il a trouvé que les problèmes qu'avait cet industriel, c'était que le microbe, en l'occurrence la levure chargée de faire la fermentation, donc pour transformer le sucre en alcool, était contaminé par un autre microbe qui faisait, lui, la fermentation lactique. Et lorsque, quelques années plus tard, il a été alerté sur les problèmes posés par les vins, pouvait tourner au vinaigre, mais aussi il y avait beaucoup d'autres maladies du vin, eh bien, il a constaté que dans ces cas-là, eh bien, c'était la présence de mauvais micro-organismes dans le vin qui faisait qu'il attrapait ces maladies et qu'il devenait impropre à la consommation. Alors, en fait, il a été chargé par l'empereur, Napoléon III, de trouver des moyens pour empêcher ces maladies du vin, et c'est là qu'il a montré qu'en chauffant modérément le vin, une fois que la fermentation était terminée, à 55 degrés, eh bien, on arrivait à détruire les mauvais micro-organismes et donc le vin pouvait se conserver. Et c'est ce qu'on a appelé, et quand je dis « on », c'est pas les Français, c'est d'abord les Allemands et les Hongrois qui ont appelé ce procédé « pasteurisation ». Aujourd'hui, ce procédé n'est plus tellement utilisé pour le vin, mais il est utilisé pour de nombreux autres aliments, comme par exemple le lait et les produits laitiers, comme tout le monde le sait.
Et autre problème, autre enquête, là, 1867, c'est au secours des éleveurs de vers à soie que se porte Louis Pasteur. Et là, il commence à travailler sur les animaux, c'est très important, parce qu'après, il y aura toute une série d'expérimentations animales. Et puis, ce seront justement les poules, les expérimentations sur les volailles. Et de là, vont naître, Maxime Schwartz, les vaccins atténués.
Oui, c'est une longue histoire que vous résumez là. En fait, bon, effectivement, en 1865, il a été appelé au secours parce que les vers à soie étaient atteints d'une maladie qui les décimait. Alors, il faut bien voir qu'à l'époque, la France produisait 10% de la soie mondiale. Et donc, c'était un des revenus importants du pays. Or, cette maladie des vers à soie posait de très très graves problèmes. On a demandé à Pasteur de s'occuper de ce problème. Il ne connaissait rien aux animaux et même aux vers à soie. Il travaillait à ce moment-là sur les fermentations. Mais il a malgré tout accepté de se dévouer, entre guillemets, pour essayer de résoudre ce problème. Il a trouvé le moyen, mais il lui a fallu 5 ans, en fait de 1865 à 1870, pour comprendre que les vers à soie étaient atteints de maladies contagieuses ou infectieuse, ce qui s'appelait la pébrine et la flacherie, et il a proposé des moyens pour protéger les élevages contre ces maladies. Alors ça a été très important pour l'industrie de la soie, la sériciculture, mais en même temps, pour lui, ça a été le premier pas, disons, dans l'étude des maladies infectieuses. C'était les maladies donc des vers à soie, c'était loin encore de l'homme, mais c'était très important, et c'est là qu'il a compris un peu les mécanismes de transmission des maladies, etc. Alors, un peu après, il se trouve qu'il a commencé à travailler sur des maladies animales, et notamment ce qu'on appelle le charbon, qui touchait les ovins et les bovins, une maladie qui apparaissait brutalement et qui faisait que les animaux mouraient en relaçant du sang noir par tous les orifices, d'où le nom de charbon. Et alors, il a commencé en fait à s'intéresser de près à cette maladie parce qu'il se trouve qu'un jeune médecin allemand, un médecin de campagne qui s'appelait Robert Koch en allemand ou Koch en français, a prétendu qu'il avait démontré que c'était un microbe particulier qui causait cette maladie du charbon. Alors Pasteur n'a pas été très content parce que d'abord c'était un jeune médecin inconnu qui permettait de prétendre démontrer sa théorie à lui, qu'il appelait la théorie des germes, qu'il avait développée à propos de l'étude des fermentations. Mais bref, il a contribué avec Koch à démontrer qu'effectivement, un microbe particulier était responsable d'une maladie infectieuse. Et ça, c'est le début de toute la microbiologie infectieuse.
Une rivalité qui a donc porté ses fruits. On va en reparler tout à l'heure. Hein. Vous restez avec nous, Maxime Schwartz. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations pour continuer de parcourir notamment le catalogue de cette exposition l'exposition Pasteur expérimentateur, cette exposition qui va ouvrir ses portes jeudi prochain au Palais de la Découverte à Paris. On reste ensemble.
Priorité santé. Caroline Paré.
Louis Pasteur, visionnaire, expérimentateur, une exposition au Palais de la Découverte qui nous donne l'occasion de poursuivre cette évocation dans cette deuxième partie de Priorité Santé, du parcours de l'héritage de celui qui reste le plus célèbre des chercheurs français, des savants français. Exposition, son catalogue que vous avez co-dirigé avec Annick Perrault, publié aux éditions de La Martinière. Maxime Schwartz, vous êtes toujours avec nous. Maxime Schwartz, auteur de autour de Louis Pasteur, a de nombreuses figures de la recherche, parce que si son nom est à l'origine de plusieurs autres mots qui sont passés dans le vocabulaire courant, pasteurisation, pasteurisé, peut-être moins connu, ce sont les pasteuriens. Maxime Schwartz, que signifie être pasteurien ?
Bien, François Jacob avait donné une définition du pasteurien, c'est d'avoir travaillé à l'Institut Pasteur ou dans un Institut Pasteur.
C'est un peu limité. On va étendre cette définition sur peut-être l'esprit pasteurien.
Oui. L'esprit pasteurien, bien d'abord, il y a une notion de qualité, de recherche, de rigueur. Il y a une notion humaniste qui a déjà été soulevée par le directeur de l'Institut Pasteur du Sénégal, qui était parfaitement réel. Et je crois aussi, ce que j'ai brièvement évoqué, ce lien permanent entre la recherche et les applications de la recherche, qui est sans arrêt présent à l'esprit des pasteuriens.
Alors, mission de ces pasteuriens qui est perpétuée à Paris, hein, rue du docteur Émile Roux, un compagnon de Louis Pasteur. Quels sont les autres grands noms de cet héritage pasteurien ?
Bien, Roux est, lui-même est méconnu. Il a joué un rôle très important dans tous les travaux de Pasteur sur les maladies contagieuses et les vaccins. Et il a fait des contributions majeures dans la lutte contre la diphtérie avec la co-découverte avec des Allemands de ce qu'on a appelé la sérothérapie qui a sauvé un très grand nombre d'enfants de cette maladie. Il faut voir que c'était le premier traitement efficace contre une maladie contagieuse. Bon, à part cela, bon, Duclos a été très proche de Pasteur. Il est moins connu parce qu'il n'a pas fait, disons, de très très grande découverte, mais on l'a qualifié d'apôtre de la science pasteurienne parce qu'il a beaucoup contribué à la répandre dans le monde entier. Et puis deux qui sont quand même relativement connus, il y a d'abord Yersin qui a été d'une part à travailler avec Roux sur la diphtérie et qui surtout a été le découvreur du bacille de la peste en 1894 à Hong Kong. Puis il y a Calmette, que l'on connaît pour deux choses importantes. La première, c'est qu'il a été le premier à être envoyé par Pasteur hors de l'Hexagone pour aller créer un institut Pasteur dans ce qui était alors l'Indochine, et aujourd'hui le Vietnam. Et il a créé le premier institut Pasteur du réseau international à Saïgon. Et lorsqu'il est rentré en France, ça c'était dans la période de 1890-1893 qu'il était à Saïgon, quand il est rentré en France, il est allé créer un autre institut Pasteur à Lille, et c'est là qu'il a entamé les travaux qui a abouti à l'invention du BCG avec le vétérinaire Guérin. Le BCG a été le vaccin bactérien, antibactérien le plus utilisé au monde.
Pour lutter bien sûr contre la tuberculose. Alors pour tout savoir sur cette communauté, un autre ouvrage intitulé « L'Institut Pasteur, recherche d'aujourd'hui, médecine de demain », publié là aussi aux éditions de La Martinière, toujours à l'occasion de cette exposition au Palais de la Découverte. Pasteurien à travers le monde, hein, comme au Laos, où on retrouve le docteur Paul Bray. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur à Vientiane, cette capitale laotienne, chef de laboratoire d'entomologie médicale à l'Institut Pasteur du Laos, spécialiste des insectes. Docteur Paul Bray, ce sont d'ailleurs d'autres animaux qui vous ont poussé à créer cet institut. C'était il y a déjà près de 15 ans.
Oui, donc nous avons créé cet institut en 2012, donc aux demandes du gouvernement laotien, pour travailler sur des insectes transmetteurs de maladies, mais aussi d'autres pathologies humaines qu'on se trouve dans cette région du monde.
Et en particulier la grippe aviaire.
On travaille sur la grippe aviaire, mais on travaille aussi sur les maladies à prévention vaccinale comme le rubéole, le rougeole qui existe toujours, ainsi que le dengue, le chikungunya, le zika, mais aussi le paludisme et les parasitoses comme le schistosomiase ou le double oriental du foie.
Vous vous sentez, docteur Paul Bray, vous aussi dépositaire en quelque sorte de cet héritage de Louis Pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire justement, retrouver l'esprit de Louis Pasteur au XXIe siècle?
Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que cette croyance en Louis Pasteur a affecté ma vie. Parce que je suis originaire des États-Unis. Et j'ai décidé de poursuivre mes recherches à l'Institut Pasteur pour retrouver ce que Maxime Schwartz vient de dire, c'est cet héritage immatériel d'une tradition de Louis Pasteur et ses disciples, unis par le désir de faire des recherches d'excellence, unis par le combat contre les maladies infectieuses et unis par un sentiment humaniste de faire de la recherche un outil pour soulager l'humanité souffrant. Et nous qui sommes sur les instituts pasteurs à travers le monde, nous vivons cette réalité des maladies tous les jours. Donc cette philosophie pasteurienne, cet esprit pasteurien est quelque chose qui nous anime.
Ces instituts pasteurs, ce sont des hommes, des femmes, justement. Comment est bâtie votre équipe au Laos?
Notre équipe au Laos est tout petit, donc on est 67 personnes. Il y a 38 scientifiques, donc 29 administratifs et supports. Et parmi les 38 scientifiques, on a 27 jeunes laotiens qu'on est en train de former. Et comme formateur, on a 11 étrangers des pays, de plusieurs pays, dont la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. Et donc, nous formons des jeunes chercheurs laotiens qui sont pour la plupart des femmes.
Et docteur Paul Bray, justement, tout à l'heure, vous parliez de ces secteurs de recherche, les virus que vous visez en particulier. Cela correspond à l'épidémiologie de votre pays, de votre région. Vous ciblez en particulier les pathologies que vous rencontrez?
Absolument. Donc les pathologies du Laos sont comme des pathologies au Vietnam, au Cambodge, au Thaïlande et au Myanmar. Donc les maladies sur lesquelles on travaille ici sont des maladies qu'on retrouve dans toute cette péninsule indochinoise.
Merci beaucoup, docteur Paul Bray, directeur de l'Institut Pasteur au Laos, Vientiane, Paris, 9000 kilomètres. Maxime Schwartz, comment se passe l'interaction justement entre Paris et ces instituts du bout du monde?
Bien, les choses ont beaucoup évolué au cours de l'histoire. Il faut voir qu'au début, les instituts Pasteur ont été créés dans ce qu'était l'Empire français. Et donc, il y avait un peu une relation, disons, de domination de l'Institut Pasteur de Paris sur les différents instituts. Et lorsque Monod est arrivé à la direction de Pasteur, il n'y avait que des relations, disons, bilatérales de l'Institut Pasteur avec chacun des instituts du monde. Et Monod a changé les choses en créant ce que j'ai moi-même appelé plus tard le réseau international des instituts Pasteur. Donc là, c'est vraiment un réseau dans lequel, bon, évidemment, l'Institut Pasteur à Paris joue un rôle très important, mais c'est un réseau où l'importance de chaque institut n'a fait que s'accroître. Il y a tout un ensemble de collaborations entre les instituts du réseau. Il y a des programmes particuliers qui favorisent les interactions. Il y a des réunions annuelles ou parfois même deux fois par an, en tout cas de tous les directeurs d'Institut Pasteur, et généralement c'est associé à un colloque international où interviennent des chercheurs de ces différents instituts.
Alors si vous le voulez bien, on va encore voyager 7000 kilomètres, cette fois direction l'ouest, la Guyane, où on vous retrouve, docteur Mirdad Kazandji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, merci, il est encore assez tôt à Cayenne. Alors docteur Kazandji, sur quoi portent vos recherches à l'Institut de Cayenne?
Alors, en fait, l'Institut Pasteur de la Guyane est créé il y a plus de 75 ans. Il a été créé en 1940. Et pratiquement dès l'origine, on travaille sur les maladies vectorielles. Et notamment les arbovirus, comme vous savez, le dengue, le chikungunya, et plus récemment le Zika. Il y a aussi d'autres maladies vectorielles qui touchent aussi la Guyane, notamment le paludisme et le leishmaniose. À côté de ces maladies vectorielles, on travaille aussi sur des problématiques des maladies zoonotiques, c'est les maladies qui sont transmises des animaux à l'homme, comme par exemple les hantavirus ou d'autres virus comme la rage. La rage est un très bon exemple d'une maladie zoonotique qui est transmise à l'homme.
Alors, docteur Mirdad Kazandji, comment définir l'état d'esprit qui imprègne justement les activités de votre institut?
En fait, l'état d'esprit des pastoriens dans le monde est toujours le même. C'est toujours animé par la passion qui a été transmise par Louis Pasteur. C'est un esprit de découverte, de progrès, de transmission de savoir. Donc on est tous animés par ce même esprit qu'on appelle toujours l'esprit pastorien. Et les chercheurs du Cayenne, comme les chercheurs à Dakar ou à l'Institut Pasteur de Laos ou au Cambodge, on est tous animés par cet esprit qui est le ciment de notre maison, qui nous renforce, qui nous lie.
Et qui sont justement ces pasteuriens de Cayenne? De quelles origines, quels profils, quelles formations?
Alors, à l'Institut Pasteur de la Guyane, il y a une centaine de personnes qui travaillent. Il y a une partie des chercheurs qui sont des pasteuriens de l'Institut Pasteur à Paris, qui sont, on peut dire, détachés en Guyane, comme la Guyane, c'est un département français, donc il y a une quinzaine de chercheurs détachés. Et puis, il y a l'équipe technique et certains ingénieurs qui sont formés localement. Depuis quelques années, nous avons une université à Cayenne, l'université de Guyane. Et actuellement, il y a huit étudiants en thèse à l'Institut Pasteur qui sont inscrits à l'université de Guyane et effectuent leur formation à l'Institut Pasteur. Donc, c'est notre rôle aussi de renforcer la formation des jeunes chercheurs guyanais. Et on espère, dans l'avenir, il y aura davantage des chercheurs locaux.
Le va-et-vient entre l'avenir et le passé, justement, cet héritage de Louis Pasteur. Quel est le message que vous retenez et quel message souhaitez-vous diffuser en étant justement à la tête de l'un de ces instituts?
Ce que je peux dire, qu'en fait, c'est comme je dis toujours, parce que c'est mon troisième institut, j'ai passé 10 ans en Afrique, et je trouve que l'Institut Pasteur, c'est une excellente image très positive, très humanitaire de la France à l'étranger. Et je vais citer la citation de Louis Pasteur qui dit « La science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. » Et c'est vrai, c'est exactement ça, la science n'a pas de patrie. Et Pasteur, c'est un très bon exemple de cette science qui est vraiment universelle et qui est au service de l'homme. Donc, je veux dire, en fin de cette mission, c'est que l'Institut Pasteur vit à travers les dons, les dons et des legs, et c'est très important d'aider l'Institut Pasteur parce que c'est important de financer la recherche a besoin des financements, et donc les dons à l'Institut Pasteur sont très importants pour nos recherches dans le monde entier.
Merci beaucoup docteur Mirdad Kazandji, directeur de l'Institut Pasteur de la Guyane. On aurait pu s'arrêter à Laval au Québec, à Téhéran ou même à Antananarivo. Maxime Schwartz, vous vouliez réagir?
Je voulais simplement préciser, mais vous venez pratiquement de le faire, c'était que j'ai dit qu'initialement, les instituts pasteurs étaient dans, disons, les colonies françaises, mais d'une part, la plupart d'entre elles sont devenues des pays indépendants, mais surtout, il existe maintenant des instituts pasteurs dans de nombreux pays qui n'ont jamais été l'Empire français. Vous venez d'en citer deux, le Canada
et
l'Iran, mais il y en a en Grèce, en Roumanie, en Belgique, en Uruguay, etc.
Alors, on vient de citer depuis le début de cette émission une image un petit peu rayonnante, on peut le dire, de Louis Pasteur, icône Pasteur, et pourtant, cette icône est parfois écornée. Par exemple, on évoque certaines rivalités ou certains emprunts à d'autres savants, Maxime Schwartz.
Eh bien, il y a eu les deux. Rivalité, je crois que la plus emblématique est celle entre Pasteur et Koch, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, et qui était due au fait que, d'une part, Pasteur était très nationaliste et avait été profondément blessé par la défaite de 1870, enfin, ou 1871, et la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc, il n'aimait pas du tout, disons, les chercheurs allemands comme Koch. Quant à Koch lui-même, ou Koch, lui, son problème, c'est qu'il avait 20 ans de moins, moins que Pasteur, et il avait beaucoup de mal à s'affirmer vis-à-vis l'image de Pasteur. Donc, il y a eu une rivalité considérable entre les deux, mais une rivalité qui, au bout du compte, a été très, très positive et a amené chacun des deux à se surpasser. Alors, pour les emprunts, de façon générale, la science avance lorsqu'un chercheur exploite les résultats qui ont été obtenus par d'autres chercheurs avant lui, ce que Pasteur a fait comme les autres. Cela dit, il est exact que, alors qu'il a rendu hommage à certains de ses précurseurs, par exemple Lister, ou bien Daven, un certain nombre d'autres, il y en a qui n'a pas suffisamment, disons, cité, et qui ont pourtant joué un rôle important. Par exemple, Henri Toussaint, qui était un vétérinaire, avait avant lui obtenu des immunisations d'animaux contre le charbon, mais malgré tout, ses résultats n'étaient pas tout à fait, disons, probants, et c'est vraiment Pasteur qui a apporté la pierre finale. Dans le cas de la rage, un autre vétérinaire qui s'appelait Galtier était parvenu à immuniser des moutons contre la rage, mais c'était en injectant du virus actif par voie intraveineuse à des moutons, ce qui évidemment n'était pas pouvait pas être fait dans le cas de l'homme, etc. Donc, c'est vrai que Pasteur, comme tous les chercheurs, a utilisé des résultats de prédécesseurs. C'est aussi vrai que, dans certains cas, il ne leur a pas suffisamment rendu hommage.
Alors, visionnaire, humaniste, et puis un homme au sens pratique aussi, Louis Pasteur, parce que de ses découvertes, eh bien, il en a tiré des bénéfices, au-delà de la postérité, des bénéfices très personnels. C'est ce qu'on découvre en lisant, justement, ce catalogue de l'exposition du Palais de la Découverte.
Oui, dans ce catalogue, il y a un chapitre extrêmement intéressant, écrit par Monsieur Galvez Béard de Lille, qui est sur Pasteur entrepreneur et qui fait découvrir une facette totalement inconnue de Pasteur. On considère un peu Pasteur comme le savant totalement désintéressé. En fait, il s'apparente plutôt au créateur de start-up actuelles. Il a été un précurseur dans ce domaine. Il a déposé des brevets, notamment dans le cas de la bière, qui lui ont rapporté de l'argent, mais surtout qui a apporté de l'argent pour développer sa recherche. Dans le cas également, il a créé des sociétés pour exploiter ses brevets sur la bière. Et pour le charbon, ces vaccins pour le charbon, il y a aussi une autre société qui a été créée, qui à nouveau a apporté des fonds pour la recherche, mais ils ont aussi apporté des fonds personnels. Et cela, ça a été complètement occulté, disons, par la famille de Pasteur, qui voulait vraiment le faire apparaître comme une espèce de saint laïque, ce qui n'était pas. Il était un homme comme tous les autres, et un homme d'ailleurs qui avait des aspects très peu connus, en dehors de ses aspects entrepreneurs. Il a été un artiste tout à fait inconnu, méconnu, disons. Il a fait des pastels remarquables dans sa jeunesse. Entre l'âge de 13 ans et 20 ans, il a entretenu des relations étroites avec le monde de l'art pendant toute sa vie.
Alors, on ne peut pas faire l'histoire avec des si, malgré tout, ce sera notre conclusion. Maxime Schwartz, si Louis Pasteur avait préféré ses pastels et ses pinceaux à son microscope et ses tubes à essai, le monde serait-il aujourd'hui ce qu'il est ?
Ça, c'est évidemment très difficile à dire. Il est probable que les découvertes qu'il a faites auraient sans doute été faites par d'autres un petit peu plus tard. Mais il a joué quand même un rôle extrêmement important dans beaucoup de domaines. Non seulement il a fait des découvertes, mais il a su les faire connaître et faire en sorte que ces découvertes soient utiles pour l'humanité et ne restent pas dans un tiroir.
Pourquoi c'est important aujourd'hui de célébrer encore la mémoire de Louis Pasteur ?
Je crois que c'est un symbole, un modèle qui a quand même énormément de côtés positifs, qui ont été soulignés aussi bien par moi que par les directeurs d'Institut Pasteur. Je pense que c'est un modèle que les jeunes auront intérêt, ils ont intérêt à s'en inspirer.
Et justement, cette exposition au Palais de la Découverte, qui commence à compter du jeudi 14 décembre à Paris, Louis Pasteur, le visionnaire, le catalogue de cette exposition, Maxime Schwartz, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ce catalogue, vous l'avez co-dirigé avec Annick Perrault, il est publié aux éditions de La Martinière. Alors cette exposition, on l'a dit, elle est interactive. Les enfants, les jeunes y trouveront leur compte. Exposition en 6 actes pour retracer les grandes étapes, les grandes découvertes de Louis Pasteur. Dissymétrie, fermentation, verre à soie, vaccin, tout y est. L'héritage aussi, bien sûr. Exposition qui va continuer jusqu'au 19 août 2018.
Priorité santé sur RFI.
Et dans 10 jours exactement, nous allons consacrer une émission complète à la problématique de la santé des migrants sous l'intitulé « Les maladies de l'exil ». Ce sera le 18 décembre. Dès aujourd'hui, nous abordons un sujet très concret lié justement à l'accès aux soins de ces personnes déracinées, la maîtrise de la langue pour réduire les inégalités, en particulier dans le domaine de la santé. La Haute Autorité de Santé vient d'émettre des préconisations à ce sujet pour défendre le principe d'impartialité, au-delà bien sûr des exigences de confidentialité, de consentement aussi, avec au centre la question de la médiation en ligne. Avec nous, Christian Saoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Quel est justement ce rôle de médiateur en santé, en particulier pour la problématique de la santé des migrants?
C'est un peu de jouer ce qu'on appellerait aujourd'hui un interface, ou en tout cas un facilitateur de l'accès aux soins entre les personnes qui sont concernées par ces soins et puis les professionnels ou les structures de santé. C'est un élément important. Ça peut aller à la fois depuis la réduction des peurs face aux soins ou l'incompréhension face à des soins jusqu'au renforcement de capacité et l'autonomie de recours au système de santé.
Où rencontre-t-on aujourd'hui ces médiateurs en santé ?
Alors ces médiateurs en santé qui sont très souvent issus d'abord de l'organisation de la société, c'est pas quelque chose qui existait dans le système de soins, c'est quelque chose qui a été inventé très souvent dans le monde associatif, et on les rencontre évidemment dans des lieux comme les centres de santé municipaux, les dispensaires, les maisons de santé pluriprofessionnelles, parfois aussi à l'hôpital, un peu dans tous les lieux où il y a un exercice collectif. On les rencontre évidemment beaucoup moins en médecine de ville, dans les cabinets où on a un médecin isolé.
J'imagine qu'ils ont des profils très différents, il n'y a pas de formation type ?
Il y a quelques formations qui sont aujourd'hui organisées, c'était d'ailleurs l'objet d'une des recommandations de la HAS, que de voir les cahiers des charges de ces formations. Il y a notamment aujourd'hui des diplômes universitaires qui sont délivrés pour la formation de ces médiateurs.
Avec en particulier la question de l'accès à l'information, de l'accès aux informations de santé. La Haute Autorité de Santé insiste sur le rôle des interprètes pour les patients migrants. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui exactement quand une personne arrive? Comment s'exprime-t-elle? Comment est-elle comprise?
C'est assez difficile aujourd'hui. Il y a quelques aides et quelques assistances qui sont prévues dans les hôpitaux parce que c'est là aussi toujours plus facile d'organiser ça à l'hôpital que de l'organiser en ville. À la différence, en ville, très souvent, l'interprétation est le fait d'un membre de la famille avec toutes les questions que ça pose en termes d'éthique, en termes de vie aussi dans la famille. C'est pas très facile d'être un enfant interprète de ses parents et de rentrer dans l'intimité des parents. C'est des choses qui sont assez compliquées. C'est tout l'intérêt de professionnaliser l'interprétariat linguistique de manière à ce qu'il y ait un tiers extérieur à la famille pour aider à la compréhension des choses.
Une série de préconisations de la Haute Autorité de Santé. À qui, justement, s'adressent ces demandes ?
Les demandes de la Haute Autorité,
absolument,
les préconisations,
absolument.
Elles s'adressent évidemment à ceux qui sont en situation d'être des interprètes linguistiques, qui sont parfois des professionnels rémunérés pour ça, mais pas toujours, qui sont aussi parfois des bonnes volontés dans des structures associatives et qui doivent malgré tout respecter un certain nombre de principes, notamment éthiques. Traduire, dit-on en littérature, c'est souvent trahir, et bien ici, il faut que ce ne soit pas le cas. Donc il faut être extrêmement précautionneux. Donc ça s'adresse d'abord aux interprètes et à ceux qui sont en situation d'interprétariat pour les prévenir d'un certain nombre de pièges et les aider à accomplir leur mission. Et puis ça s'adresse aussi évidemment à l'État pour qu'il renforce ses actions dans ce domaine-là auprès des publics concernés.
Et justement, du côté des financements, est-ce qu'il y a justement des fonds prévus, existants, des budgets, ou est-ce qu'il y a vraiment un manque pour ces deux acteurs, qu'il s'agisse donc des médiateurs ou précisément des interprètes ?
Dans les deux cas, après la reconnaissance qui est intervenue dans la loi Touraine, qui a donc consacré ces interprètes et ces médiateurs, il y a une difficulté quand même qui est d'avoir les disponibilités financières pour permettre ces missions-là. La Haute Autorité de Santé l'a d'ailleurs reconnu dans la recommandation qu'elle a émise en disant qu'au fond, tout ça, c'était un optimum qu'elle souhaitait, mais que la limite était évidemment une limite de ressources sur le terrain. Alors, c'est une fois de plus encore plus facile de le faire dans des lieux qui sont des lieux d'exercice collectif parce que les mécanismes de financement de l'hôpital, des maisons de santé, des centres de santé permettent plus facilement de rémunérer des médiateurs ou des interprètes que l'exercice individuel du médecin isolé en ville.
Et justement, comment ça se passe pour un médecin qui se retrouve face à un migrant, parfois dans une situation de détresse, et qui n'a pas cet intermédiaire pour lui faciliter justement la compréhension de la demande ?
Ben, ça se passe avec la formation que le médecin a eue, parce qu'en principe, une formation médicale met le professionnel de santé en situation d'écouter, de comprendre. Alors, c'est toujours un peu difficile, parce que selon les cultures dont la personne est issue, les représentations des organes dans le corps humain et la perception de ces organes n'est pas la même. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il faut beaucoup de bienveillance. Mais la bienveillance, ça fait partie de la formation initiale des médecins. Donc on devrait y arriver.
Merci beaucoup Christian Saoud. Je rappelle que vous êtes membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, problématique qu'on va donc aborder dans notre émission du 18 décembre consacrée aux maladies de l'exil. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Et lundi, un reportage signé Charlie Dupio au Niger, consacré aux fistules obstétricales. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone, c'est le 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.